Il est 7h30 sur France Inter. Voici Charlotte Piret, le journal. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. D'inquiétantes analyses dans les cours d'école, des commerçants qui s'alarment et une plainte déposée hier par l'association Robin des Bois. Le risque d'une contamination au plomb 3 mois après l'incendie de Notre-Dame. Pas assez de lits, de personnel, de moyens et un mouvement qui ne faiblit pas. 210 services d'urgence toujours en grève partout en France. Dans l'actualité du jour également, une chasse à l'homme de grande ampleur au Canada où 2 personnes sont recherchées pour meurtre. Réelle sollicitude ou stratégie politicienne quand Donald Trump prend fait et cause pour le rappeur noir américain A$AP Rocky, jugé aujourd'hui en Suède. Les migrants de plus en plus nombreux à s'installer à la campagne. Et puis, sans internet, la vie s'arrête. Les habitants d'une petite commune de l'Aisne en font la mère expérience.
Notre invité à 8h10 ce matin sur France Inter, Pierre-Henri, le directeur général de France Terre d'Asile, le dossier des migrants et l'Europe, quelle solidarité, et puis l'accueil des migrants en France. Rendez-vous donc avec Pierre-Henri à 7h50.
France Inter. L'incendie de Notre-Dame a-t-il pu provoquer des contaminations au plomb? Et surtout, les autorités auraient-elles pu l'empêcher si elles avaient été plus promptes à réagir? Les réponses seront peut-être apportées par la justice, désormais saisie d'une plainte de l'association Robin des Bois pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors que 3 établissements scolaires ont été fermés la semaine dernière, soit 3 mois après l'incendie qui a vu 400 tonnes de plomb partir en fumée, les analyses ont révélé des taux importants dans les cours de récréation. D'autres prélèvements sont effectués dans les habitations environnantes et l'inspection du travail a lancé des visites dans les commerces du quartier. Rémi Brancato.
Face au flanc nord de la cathédrale rue du Cloître, dans son magasin de souvenirs, Marie Galor montre les analyses affichées derrière la caisse.
Il n'y a pas de plomb. On a fait faire des analyses du magasin. On nous a demandé de faire des prélèvements aux salariés aussi.
L'inspection du travail est passée mi-juin. Pas d'inquiétude ici, mais le nuage de fumée de l'incendie a été poussé par le vent vers l'ouest.
Quand Notre-Dame a brûlé, toute la fumée est venue comme ça. C'est bizarre comme couleur, c'est un jaune.
Place Saint-Michel, Carole Londet gère le restaurant La Fontaine. Ici, un taux de plomb élevé a été mesuré sur le trottoir.
L'inspection du travail est venue nous voir pour nous demander si on acceptait d'avoir des relevés la semaine dernière. Si on est vraiment en danger, c'est trop tard.
En attendant ces prélèvements dans son établissement, Carole a reçu des consignes.
Nous n'avons plus le droit de balayer parce qu'apparemment, en balayant, on doit soulever les poussières de plomb, je ne sais pas. Et là, maintenant, il faut mouiller. Comment décontaminer un établissement fermé, je veux bien, mais en extérieur, on fait comment?
Dans l'espace public, il n'y a pas de seuil défini qui déclenche une alerte, comme pour les habitations.
Bonjour.
Alors qu'est de Montebello, Véronique Baudon ne s'inquiète pas, cette bouquiniste n'a reçu, dit-elle, aucune visite.
En tant que travailleur indépendant, moi, j'ai pas été prévenue. Mais je suis pas plus inquiète que ça, sinon, il y a longtemps que j'aurais été faire ma prise de sang.
Le chantier de la cathédrale, lui, a bien été visité et il est suspendu depuis bientôt une semaine, le temps d'améliorer les procédures de sécurité et de décontamination pour les ouvriers.
La pollution au plomb après l'incendie de Notre-Dame, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr. La plainte d'anciens salariés de France Télécom qui pendant des années ont manipulé des ampoules radioactives, des parafoudres qu'ils avaient pour mission d'installer. Cela a duré jusqu'en 1978. Certains ont depuis développé des cancers. Ils saisissent donc la justice, estimant ne pas avoir été suffisamment protégé par l'entreprise. Des mois qu'ils disent la même chose, inlassablement, besoin de plus de lits, de plus de personnel, de meilleurs salaires aussi. Même en plein cœur de l'été, la grève des services d'urgence ne faiblit pas, au contraire. Bastia vient de rejoindre le mouvement hier, portant à 210 le nombre de services désormais grévistes, car les 100 euros nets de primes de risque promis par la ministre ne sont pas considérés comme suffisants, Véronique Julia.
Plus de 210 services en grève aujourd'hui contre une centaine à la mi-juin. Ça montre bien que malgré les vacances qui rendent souvent les mobilisations plus difficiles, les personnels sont toujours aussi remontés, de plus en plus remontés même, précise l'un d'eux, car l'été n'arrange rien. La canicule a fait augmenter les passages aux urgences et dans les zones touristiques, les vacanciers affluent. En face, toujours aussi peu de personnel et aussi peu de lits pour hospitaliser les patients qui le nécessitent. À Saint-Nazaire, par exemple, le collectif Interurgence explique que la semaine dernière, plus d'une centaine de patients ont ainsi passé la nuit sur un brancard, faute de lits disponibles. Alors bien sûr, au mois de juin, le ministère de la Santé a fait un geste et débloqué des fonds. 55 millions d'euros pour financer dès le 1er juillet une prime de 100 euros pour les personnels des urgences. 15 millions aussi pour les aider à gérer l'été. Problème, d'après le collectif, ces 15 millions ne se voient pas sur le terrain. Dans la grande majorité des régions, les plans de fermeture de lits n'ont pas été modifiés et les conditions restent toujours aussi difficiles. Une nouvelle assemblée générale des grévistes est prévue le 10 septembre prochain. Des grévistes qui continuent de réclamer 10 000 embauches crèches et des réouvertures de lits dans tous les hôpitaux de France.
Véronique Julia, l'autopsie prévue ce matin viendra apporter une réponse définitive, mais tout porte à croire que le corps repêché hier dans la Loire est bien celui de Steve Canisso, ce jeune homme de 24 ans porté disparu depuis la fête de la musique et l'intervention controversée des forces de police à Nantes. Le corps repêché fortement abîmé hier a été retrouvé non loin du lieu de sa disparition.
7h35 au Canada, c'est une véritable chasse à l'homme qui se déroule depuis près de 15 jours.
À la recherche de deux fugitifs, deux hommes de 18 et 19 ans suspectés d'avoir tué un professeur de botanique, puis un jeune couple de touristes venus d'Australie. Les moyens déployés sont considérables dans cette région marécageuse et particulièrement hostile. Selon un signalement pris au sérieux par la gendarmerie royale du Canada, les suspects auraient été aperçus à York Landing dans la province du Manitoba. Marie-Laure Josselin.
Nous sommes conscients que la communauté de York Landing vit des moments difficiles.
C'est dans cette petite communauté autochtone, accessible que par avion ou par ferry, qu'un patrouilleur communautaire aurait vu dimanche les deux suspects. Sauf que la police n'a pas été en mesure de le confirmer. Il faut donc rester sur ses gardes, demande la caporale Julie Courchène.
Nous tenons à rappeler aux résidents de rester vigilants. Nous demandons aux résidents de rester à l'intérieur dans la mesure du possible et de s'assurer que leurs portes sont verrouillées.
Depuis une semaine, cette chasse à l'homme qui a débuté à près de 4000 km de là avec trois morts, deux suspects de 18 et 19 ans et un déploiement policier digne d'un film tient les Canadiens en haleine.
It is challenging terrain, lots of forest.
D'autant plus que la zone avec ses forêts denses, ses tourbières, ses lacs, les animaux sauvages et les moustiques en nombre est isolée, hostile, autant pour les fugitifs que pour la police.
You'd have to know the land really well to survive here.
Il faut vraiment bien connaître le territoire pour survivre, a précisé à la chaîne publique Radio-Canada le chef de la communauté de York Landing, le roi Constant. Ajoutons que c'est un miracle qu'ils soient encore en vie, s'ils le sont toujours.
If that is in fact them.
La police ne se laisse pas abattre et poursuit cette chasse à l'homme dans le nord du Manitoba. À Montréal, Marie-Laure Josselin pour France Inter.
L'affrontement de deux bandes rivales dans la prison brésilienne d'Altamira et la mort d'au moins 57 détenus asphyxiés dans l'incendie déclenché dans l'affrontement, mais aussi pour 16 d'entre eux décapités, en témoignent de morbides vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ce type de mutineries meurtrières sont un véritable fléau dans les prisons d'Amérique latine, particulièrement au Brésil, qui compte la troisième population carcérale au monde. Au Brésil encore, Neymar échappera-t-il à un procès pour viol? Les enquêteurs estiment en tout cas qu'il ne dispose pas de charges suffisantes contre l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est au juge d'en décider désormais, après la plainte d'une mannequin brésilienne qui dit avoir été violée par le footballeur dans un hôtel parisien. Neymar, lui, parle d'une relation consentie. Le procès du rappeur américain A$AP Rocky s'ouvre, lui, aujourd'hui en Suède, jugé pour violence après une rixe il y a quelques semaines à Stockholm. Affaire ultra médiatisée qui a mobilisé le milieu du hip-hop, bien sûr, mais bien au-delà, Donald Trump lui-même s'en est ému. S'est ému de la détention provisoire de l'artiste, à moins que ce ne soit pour des raisons purement politiciennes. Loïc Loury.
La Suède a laissé tomber notre communauté afro-américaine. Ces mots postés sur Twitter sont ceux de Donald Trump, particulièrement investi dans cette affaire, même si ses motivations restent floues. Le milliardaire a peut-être simplement flairé une bonne opération politique. Plus de 600 000 personnes, en effet, ont signé une pétition de soutien à A$AP Rocky. Surtout, deux superstars se sont directement adressés au président Kim Kardashian et son mari Kanye West, proche de Donald Trump. Ce dernier est sans doute soucieux de garder dans son entourage les quelques célébrités dont il a l'oreille. Autre raison invoquée, Donald Trump chercherait à se racheter après ses propos racistes envers quatre élus du Congrès. Difficile à croire, puisque le président, encore hier, s'en est pris violemment à un pasteur noir. Reste une certaine idée de la diplomatie, souvent dans l'affrontement. Ses efforts, également depuis le début de sa présidence, pour faire libérer les Américains enfermés à l'étranger, à la différence qu'A$AP Rocky n'est pas retenu en otage par la Suède. New York, Loïc Loury, France Inter.
Retour en France face à la sécheresse, l'autorisation d'utiliser les jachères en fourrage, Charlotte.
Les agriculteurs de 60 départements désormais concernés pour éviter qu'ils ne prélèvent dans leur stock de fourrage pour l'hiver, alors que les mesures de restriction d'eau sont toujours en vigueur dans 80 départements. L'agriculture, justement, pourvoyeuse d'avenir pour les migrants, ils sont de plus en plus nombreux à s'installer en zone rurale et à travailler dans les exploitations agricoles, selon une étude du Centre de recherche de la Commission européenne. Sophie Becherel.
C'est une chance et un handicap. Une chance
chance car les exploitations agricoles offrent des emplois et un salaire pour les migrants en zone rurale. Un handicap car ces emplois sont saisonniers, pas toujours déclarés et surtout, note la Commission européenne, parce que la campagne n'offre pas les mêmes services que la ville. Pour les migrants, il est plus difficile encore de trouver un logement, d'accéder aux services administratifs et l'isolement rend leur intégration plus difficile. Pour autant, entre 2011 et 2017, la part des migrants employés dans le secteur agricole est passée de 4,3 à 6,5%, une hausse moyenne tirée par l'Espagne, l'Italie et le Danemark. Ce recours à la main-d'œuvre étrangère, connu de longue date en Espagne, cache une précarité de l'emploi. Avec un taux de chômage de 17%, les migrants à la campagne sont deux fois plus touchés que les ressortissants de l'Union. Ce que montre enfin cette étude, c'est que l'agriculture emploie ceux qu'elle ne peut trouver sur place. Dans les régions où la population autochtone diminue, les migrants constituent un vivier de main-d'œuvre qu'il conviendrait de soutenir et de cibler dans les politiques d'intégration, note la Commission.
Les chiffres de la croissance et un léger ralentissement, plus 0,2% seulement du fait d'une consommation des ménages plus contenue. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, la vie sans Internet, ça existait, souvenez-vous, sauf qu'aujourd'hui, elle est devenue impossible. Et lorsqu'un village est privé de toute connexion, le quotidien devient très difficile. En témoigne l'amère expérience des 750 habitants de Vivèze, dans l'Aisne, où le vol de près de 500 mètres de câbles a rompu toutes les connexions de tous les opérateurs. Déjà 8 jours que ça dure, Thibault Lefebvre.
Une semaine sans Internet, c'est pour le Café des Sports de Vivèze 6 000 euros de perte, environ la moitié du chiffre d'affaires hebdomadaire et évidemment beaucoup de clients en moins. Olivier Leclerc a repris l'établissement il y a 3 ans.
Nous, on a un TPE, carte bancaire. Comme la carte ne passe pas, ils vont acheter leur tabac ailleurs. Ils ne prennent pas leur ticket de Française des Jeux, ils ne font pas leur loto. On a un maître chien la nuit qui surveille le bar, on n'a plus d'alarme non plus. On a une serveuse, je ne vais pas pouvoir la garder. Et là, on peut tout perdre en 15 jours, 3 semaines de temps. On est vraiment très embêtés de partout.
Des conséquences économiques, mais aussi sanitaires. Jocelyne Véron est la première adjointe à la mairie de Vivèze.
Je suis très très en colère. Nous, on a un village, on a des personnes qui sont seules, des vieilles personnes âgées, qui ont des bips, vous savez, pour prévenir les hôpitaux ou la famille en cas de problème si elle tombe chez elle et tout ça. Tout ça, ça ne marche plus. Les personnes âgées sont délaissées. Moi, je trouve ça inadmissible. On est à l'abandon complet. Et en face de nous, il n'y a personne pour nous répondre valablement.
Orange assure pouvoir rétablir le réseau cette semaine. L'entreprise promet des compensations financières au cas par cas en fonction du préjudice subi.
Voilà, si vous êtes adepte de la déconnexion, Pierre, vous savez où aller passer vos vacances.
Absolument. C'était le journal de Charlotte Piret.